On reprend les différents récits de personnes qui résistent face à la prison. C'est aussi le cas de Christine Ribailly, incarcérée en novembre 2012 pour diverses condamnations d'outrage et rébellion sur des flics et des matons.
Depuis le début de son incarcération, Christine a refusé de se soumettre. Elle se retrouve au tribunal pour chaque manquement à ses droits. Parce qu'elle refuse de se soumettre à une fouille à nu sans raison, parce qu'elle dénonce qu'on l'envoie systématiquement au mitard, parce qu'elle bataille face aux matons qui voudraient continuer d'œuvrer en toute impunité. Et elle se trouve au tribunal, non parce que ses plaintes sont entendues, mais bien en tant qu'accusée, inculpée pour avoir refusé de céder. En définitive, Christine a passé la majorité de sa peine en quartier disciplinaire ou en isolement. Elle a subi une quinzaine de transferts d'établissement. Les plaintes qu'elle a portées à de nombreuses reprises ont toujours été classées sans suite. Rentrée pour quelques mois, Christine a ainsi accumulé plus de 3 ans d'incarcération supplémentaire à sa peine initiale.
Alors ici, quand on parle de fouille à nu, de fouille intégrale, ce sont les mêmes choses. On peut recevoir des témoignages de femmes détenues, il faut enlever ses vêtements, soulever ses seins et ses pieds, enlever son tampon durant les règles, donner sa culotte pendant que le sang coule. Des témoignages qui montrent bien la question que posent ces traitements inhumains et dégradants à l'encontre des prisonniers et prisonnières. Dans un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui avait été fait en 2015, une visite de l'établissement de Poitiers-Vivonne, il était noté que 60% des détenus du quartier femmes subissaient de manière systématique une fouille à nu sans réelle motivation. Idem pour les détenus particulièrement signalés. Ça donnait, pour certaines personnes, une fouille à nu tous les 2,6 jours en moyenne sur la période examinée. Il y a eu plusieurs décisions du tribunal administratif de Poitiers qui ont donné gain de cause en 2012 à des personnes détenues à Vivonne qui dénonçaient ces fouilles intégrales systématiquement après les visites au parloir. Et c'est bien le directeur de la prison de Poitiers-Vivonne qui mettait en place ce système-là. Il y a une campagne contentieuse qui a été menée dans toute la France pour dénoncer l'illégalité de ces pratiques. En réalité, la loi reste bien floue sur le sujet. Elle se contente de les juger légales lorsqu'elles sont justifiées. La question de savoir qu'est-ce qu'on met derrière ce terme-là. Et récemment, en 2016, les lois qui viennent renforcer la lutte contre le terrorisme n'ont fait que rajouter à nouveau des possibilités de fouille à nu systématique sur un temps donné, dès lors qu'on aurait le soupçon d'une infraction.
D'accord. Alors, pour revenir à Christine, lors de son passage à Vivonne, en fait, elle s'associe à d'autres prisonnières pour porter un ensemble de revendications. C'est en décembre 2014, les détenues du quartier femmes rédigent une plateforme de revendications collectives où elles expriment leur mécontentement et leur exigence immédiate. Et donc, Cathy va vous lire l'intégralité de ces revendications.
Des payes correctes, tant aux ateliers qu'au service général. La suppression des QI et des régimes différenciés au CD, comprendre quartier d'isolement et centre de détention. Les portes ouvertes en maison d'arrêt et ou le téléphone en cellule. La mise en place systématique des aménagements de peine sans délai et des transferts en centre de détention dès la condamnation. La facilitation du téléphone, des parloirs et des unités de vie familiale avec nos proches, enfermés ou non. Des repas appétissants, marre de manger du plastique. La fin des fouilles systématiques et ou punitives. Puis localement, des conditions dignes à la nurserie, arrêt des réveils nocturnes, une cour avec de l'herbe, des temps de socialisation pour la maman. L'accès à l'école pour toutes, fin des refus avec la fausse excuse de la mixité. La télé à 8 euros par mois, alignement sur la loi, comme dans les prisons publiques, 18 euros ici. La fin de l'interdiction des apports au parloir, livres, disques, produits d'hygiène, on n'est pas là pour enrichir les cantines privées. L'ouverture d'une salle de convivialité, elle doit être systématique quand la météo est mauvaise car il n'y a pas de préau dans la cour. Plus d'activités, actuellement il n'y a que bricolage en papier et fitness 2 heures par semaine. L'accès au terrain de foot, seuls les hommes y ont droit. La gratuité du courrier interne, on doit timbrer les lettres pour le quartier homme.
Et donc c'est dans ce contexte de revendication collective que l'administration pénitentiaire va porter plainte contre Christine qui passera au tribunal pour outrage, violence et rébellion encore une fois. À Poitiers, un rassemblement de soutien a lieu pour soutenir Christine et des rassemblements similaires en fait se tiennent dans toutes les autres villes lors de chaque audience de Christine qui est fortement soutenue et heureusement.
Aurélie et Irina, deux ex-codétenues de Christine, ont écrit à l'envolée en septembre 2015. On en retient que la réponse à la plateforme de revendication a été la mise en confinement de chacune des prisonnières ayant pris part aux revendications, au seul motif que les revendications sont interdites. Grande nouveauté, la loi pénitentiaire de 2009 apporte à ce sujet que, sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement, les personnes détenues sont consultées par l'administration pénitentiaire sur les activités qui leur sont proposées. On vous laisse juger de l'avancée. Toute solidarité entre détenus ou parole collective est ainsi proscrite de la prison. Elle témoigne aussi de la répression physique opérée par la paix et des réalités du mitard ou quartier disciplinaire. On va tout de suite vous en lire des extraits. Alors on commence par un extrait de la lettre d'Aurélie en septembre 2015.
Par exemple, la loi stipule que les fouilles intégrales doivent être modifiées et justifiées. Une fouille lui a été imposée. Elle a voulu en connaître le motif avant d'obtempérer, mais il n'y en avait pas. Il s'agissait de pression par l'humiliation. Face à son refus de soumission, l'AP a décidé de faire usage de la violence. 4 à 6 hommes peuvent être appelés à intervenir. Ils sont casqués, portent des boucliers et disposent de bombes lacrymogènes dont ils ont d'ailleurs fait usage. Dispositif impressionnant déployé sur une femme. Elle sera conduite au QD sans ménagement. Au mitard, se voyant refuser le droit de porter des chaussettes en plein hiver et parfois même sans vêtements, Christine a été poussée à bout, ce qui déclenchait souvent l'intervention de ses hommes armés. Elle hurlait « Stop, arrêtez !» des moyens d'une extrême violence pour arriver à leur fin, ôter sa dignité. L'escalade de la violence n'a plus cessé. Les courriers internes destinés à celles qui se retrouvaient au QD comme Christine sont rarement transmis, puisque la solidarité est l'unique moyen dont on dispose pour lutter contre l'injustice. La paix met donc tout en œuvre pour l'éradiquer.
Et maintenant, on vous lit un extrait de la lettre d'Irina, à nouveau à propos de Christine. J'ai connu Christine au CP de Poitiers-Vivonne. La première fois qu'elle a été amenée au quartier disciplinaire, c'était parce qu'elle a juste demandé de respecter la loi. Leur loi dit que les fouilles intégrales ne doivent pas être systématiques et qu'elles doivent être justifiées. Mais ici, chaque jour qu'il y a des fouilles de cellules, on a aussi la fouille intégrale. Moi aussi, j'ai subi des fouilles intégrales systématiques après chaque parloir. L'administration pénitentiaire disait que c'était aléatoire, mais bizarrement, c'était toujours mon tour. Ces derniers mois, au niveau des parloirs, la situation a un peu changé, car nous avons dénoncé cette pratique aux contrôleurs des prisons. Quand une personne ne respecte pas la loi, elle finit en prison. Quand l'AP ne respecte pas sa propre loi, un prisonnier est menacé et est puni seulement pour demander que le règlement pénitentiaire soit respecté. Et parfois, elle est même poursuivie en justice, comme c'est le cas de Christine. La violence utilisée contre Christine a été sans doute abusive. Une personne enfermée dans une cage et désarmée contre je ne sais pas combien de surveillants. Tous équipés de casques, boucliers, gaz lacrymogènes. L'AP savait parfaitement que cette attitude ne ferait qu'empirer la situation. J'entendais les surveillants rigoler au retour du QD. S'ils étaient des professionnels, ils auraient fait les choses différemment. Mais non, la seule réponse de la paix, c'est la violence, la menace et la punition. Face à cette situation, j'ai décidé d'agir. On voulait dénoncer les mesures appliquées par la paix contre Christine, et seulement pour avoir écrit une lettre dénonçant cela, nous avons été punis nous aussi. Alors, Irina fait référence ici au contrôleur des prisons. Il faut comprendre donc le contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui est une autorité administrative indépendante, qui peut être saisie par les prisonniers et prisonnières, commander des visites des établissements pénitentiaires, demander des comptes à la paix et rendre des rapports publics qu'à la sortie de recommandations. Pardon. À Vivonne, il y a eu 2 visites depuis l'ouverture du centre, en 2012 puis en 2015.
Alors Christine a aussi écrit de nombreuses lettres, alors on ne va pas vous en lire là, mais vous pouvez retrouver l'intégralité de ces lettres sur son blog qui s'intitule « Enfin pisser dans l'herbe noblogs.org » parce que oui, Christine est enfin sortie et peut enfin pisser dehors. Alors par contre, on vient juste d'apprendre que en juin 2019, Christine est passée en procès pour avoir harcelé téléphoniquement un médecin qui refusait de faire des visites décentes au quartier d'isolement de la prison de Moulins où Fabrice, son ami, était alors enfermé. Donc on n'a pas de nouvelles, mais on espère qu'elle restera dehors pour pouvoir pisser dans l'herbe.
Pour conclure ces récits, résister en prison, c'est montrer qu'on est encore en vie, qu'on ne se laissera pas déconsidérer comme ça. En dénonçant l'injustice et l'arbitraire, les prisonnières récoltent violence, menaces, punitions. Il faut être sacrement déterminé pour résister.
Les larmes de nos mères n'auront jamais la même valeur que celles d'un flic, d'un commissaire. Face à une justice de classe arbitraire, une justice de race injure et populaire. Un pouvoir hypocrite sur lequel souffle un vent de panique. Face au mépris de la République, face aux bras armés de l'État. La dignité et la liberté de nos frères ne se négocient pas. C'est la banlieue qu'on juge et qu'on condamne à la prison. Quand la peur change de camp et inquiète la réaction. De mon but égale une mutation de poste. Un flic blessé, c'est 15 piges que tu récoltes. Qui a vraiment l'intention de tuer et a la légitimité de son côté. Qui dans tous ses partis de gauche à droite, j'insiste, se sent vraiment préoccupé. Des drapeaux,
des préfectures, et puis les barreaux, les serrures, leurs médiateurs, des salauds en armure, colonisateurs, juge de la valeur d'une blessure. Citoyens, soyez sûrs, l'État est moyen. On fait ça bien, on est pur. Les indigènes n'ont pas d'âme. Voici la sentence, la valeur d'une larme pour la France.
Qui est la victime dans cette pièce de théâtre? Le bourreau chiale à la barre et insulte le bronzé de sale macaque. Après tant de marges de prise de parole, de vent roué par la tristesse, de sanglots ravalés, de peur, de détresse, d'espoir naïf en la justice, de deuil interminable, de pleurs, de rassemblement collectif, de procédures minables, d'intimidation, de points sur la table, d'interrogatoires, d'harcèlement, de commissions rogatoires, de châtiments, de peines, de juges, de haine et de subterfuges, de flics pourris incondamnables, de fonctionnement absurde, indépendant, d'arbitraire, de posture vulnérable, mais surtout de résistance insoupçonnable.
Yeah. Des drapeaux, des préfectures, et puis les barreaux, les serrures, leurs médiateurs, des salauds en armure, colonisateurs, juge de la valeur d'une blessure. Citoyens, soyez sûrs, l'État est moyen. On fait ça bien, on est pur. Les indigènes n'ont pas d'âme. Voici la sentence, la valeur d'une larme pour la France.
Le feu se propage, les sirènes retentissent dans la nuit. Le bruit des flashballs résonne aux 12 coups de minuit. La cagoule, la capuche et le foulard palestinien recouvrent les visages endeuillés de quelques gamins. Fils d'immigrés blessés de la manière la plus intime. Barricades dressées, feux qui les illuminent. Aux meurtres racistes répondent des émeutes populaires. Ça flambe quand une génération entière laisse exploser sa colère. Les frontières disparaissent, les poings se lèvent en guise de caresse. Les damnés de la République se défendent des répliques. Demande au fils du béton si on se contente d'un simple droit de veto. Y'a plus d'appel au vote ici. Qui sème le bloc récolte le ghetto.
Des drapeaux, des préfectures, et puis les barreaux, les serrures, leurs médiateurs, des salauds en armure, colonisateurs, juge de la valeur d'une blessure. Citoyens, soyez sûrs, l'État est moyen. On fait ça bien, on est pur. Les indigènes n'ont pas d'âme. Voici la sentence, la valeur d'une larme pour la France.
On va maintenant vous parler de la mutinerie qui a traversé Vivonne il y a 3 ans. Donc le 12 septembre 2016, une cinquantaine de détenus du centre de détention pour hommes de Vivonne mettent le feu à leur bâtiment, qui a brûlé entièrement, ainsi que le système électrique. La vidéosurveillance, elle, a été mise hors circuit. Une manière de protester face à un énième abus de la part de l'administration pénitentiaire. Ici, une permission de sortie refusée, faisant suite à une longue liste de refus pour nombre de détenus. Rien de nouveau. Déjà en 2014, un détenu de Poitiers-Vivonne constatait dans une lettre adressée au juge d'application des peines du tribunal de grande instance de Poitiers que les refus de permission de sortie en vue de la réinsertion ont été en partie oubliés au profit de la sanction. Il déclarait qu'une telle situation est à la fois indigne dans la juridiction de la Vienne que vous représentez et la marque d'une grande bêtise. Propos qui lui ont valu une peine de prison ferme pour outrage à magistrat dans l'exercice de ses fonctions, finalement annulée par la cour d'appel de Poitiers.
Donc on le disait, la mutinerie de Poissy-Vivonne, il y a eu intervention des ERIS sur place pour mettre fin à la mutinerie qui va durer plusieurs heures. Les ERIS, ce sont les équipes régionales d'intervention et de sécurité, des agents du maintien de l'ordre ultra-armés, grenades de désencerclement, flashballs, fusils d'assaut et fusils à pompe, et ultra-violents, cagoulés lors de leurs interventions, auxquels la paix fait désormais appel à chaque acte de résistance d'un prisonnier. La gestion des personnes détenues et de la mutinerie ont donné lieu au transfert de l'ensemble des prisonniers du centre de détention, soit 178 personnes, dans d'autres prisons les 2 jours suivants. Les familles, elles, ne seront informées qu'après plusieurs jours du lieu où ont été transférés leurs proches. Pour les prisonniers restés sur place, c'est-à-dire ceux de la maison d'arrêt, du quartier femmes et du quartier SMPR, quartier de soins, une partie des parloirs est supprimée jusqu'à nouvel ordre. Toutes les demandes de permission passées en commission le lendemain de la mutinerie sont refusées. Immédiatement suite au fait, 5 personnes passent en commission disciplinaire, organe de sanction interne à la prison. Après finalement 2 ans, 4 des mises en cause passent en procès. Il existe bien des raisons de se révolter face à la prison, les mutins le racontent avec fermeté lors de leur procès.
Oui, et ils arrivent au tribunal entourés comme il se doit par une armada d'uniformes bleus. Le procès commence et la juge cherche à désigner d'entrée de jeu le meneur de la mutinerie, tandis que les prévenus tiennent plusieurs axes de défense. Notamment, ils n'hésitent pas à sortir de leur cas particulier pour dénoncer les conditions d'incarcération de tous les détenus. Impuissance, détresse et colère sont exprimées devant une cour visiblement peu familière des réalités carcérales. Ils rappellent les raisons qui les ont poussés à faire ça. Un refus de permission de sortie, du désespoir, et encore une fois Vivonne, qui est pointée du doigt comme étant une tôle particulièrement hostile. Un prévenu conclut que tous les détenus ont sans doute un jour souhaité mettre le feu à leur prison et qu'il faut vraiment être aveugle pour ne pas en comprendre les raisons. Les condamnations seront portées à 5 ans de prison supplémentaires pour 2 d'entre eux, considérés à l'initiative de la mutinerie, et à 3 ans de prison pour le prévenu qui a refusé de se présenter au tribunal. En conclusion, on va vous lire le courrier d'une prisonnière de Vivonne qui a été écrite à l'envolée à propos de cette mutinerie.
Par rapport à la mutinerie qui a eu lieu la semaine dernière au CDH, presque tout ce que nous avons su, c'est par les médias, que le mec qui a déclenché la mutinerie avait vu sa perme refusée par le directeur alors que le juge lui avait accordé. Qu'ils ont pris les clés à un surveillant, qu'ils ont ouvert les portes des autres prisonniers, qu'ils ont fait sortir les choses et ils ont mis le feu. Que les flics sont rentrés et qu'ils ont fait le nécessaire, entre guillemets, pour stopper la mutinerie. Peut-être 2 infos que personne n'a entendues dans les médias. Il y a des doutes sur le pourquoi de l'hospitalisation du mec. C'est à cause de la fumée ou à cause des nombreux coups qu'il a pris quand les super flics ont fait le nécessaire? Apparemment, on a vu des prisonniers couverts de sang sortir du bâtiment. C'est intéressant de remarquer également que les prisonniers et prisonnières qui étaient témoins dans les cellules étaient contents de voir cet acte de rébellion. Ça a crié, beaucoup et fort, des insultes contre la paix et la police, et des cris de solidarité envers les mutinés. C'était vraiment beau à voir et entendre. Nous sommes convaincus qu'il y aura des représailles avec le temps. Et pour ceux qui ont fait la mutinerie, la punition va être lourde. Ça, tout le monde le sait. Force et courage, les mecs. Ils utiliseront le prétexte de la mutinerie pour mettre en place d'autres mesures répressives ou nous enlever des droits. Mais nous aurons toujours en nous le plaisir de savoir que Monsieur le Directeur a été humilié. Leur super prison de haute sécurité célèbre pendant quelques jours parce qu'il y a eu un gros bordel. Et peut-être, il se souviendra toujours que l'animal humain n'est pas si facile à dresser.
On arrive à la fin de cette émission de Fracture. Bien évidemment, il y a plein d'autres histoires en prison et nous n'en avons relayé ici que quelques-unes. Merci donc de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de Pulsar. Alors nous poursuivrons le sujet lors de la prochaine émission où l'on reviendra plus en détail sur le fonctionnement de la prison, un système sécuritaire qui, on le verra, génère beaucoup de profits. Alors d'ici là, on vous invite à redécouvrir plusieurs choses.
Alors le site de l'Envolée contre toutes les prisons, où on retrouve un certain nombre de témoignages de personnes et d'échanges de courriers avec des personnes emprisonnées. Vous pouvez retrouver aussi le site de l'OIP, l'Observatoire international des prisons, et sa publication Dedans Dehors, qui s'intéresse aussi aux conditions de vie, aux conditions de détention. Ou encore suivre le syndicat PRP, le syndicat pour le respect des prisonniers, qui intervient et qui essaie de faire bouger les choses.
Et pour finir, on vous conseille une autobiographie qui s'appelle « Huye, hombre, huye » de José Tarrio González. Donc c'est le récit d'une personne, donc c'est en Espagne, hein, il connaît l'incarcération dès sa jeunesse et malgré une peine initiale de prison de 2 ans, il va y rester de longues années jusqu'à sa mort. C'est vraiment un très chouette récit poignant qui raconte la spirale carcérale, un récit de révolte, de mutinerie et d'évasion. Retrouve vendredi prochain à 18h. Bonne soirée à tous!